Géopolitique.
Sophie Malibaud.
L'agenda de l'OTAN bousculé par la crise ukrainienne. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord en sommet les 4 et 5 septembre prochains au Pays de Galles va devoir se pencher de nouveau sur ses relations avec la Russie. Des relations qui évoluaient dans un contexte plutôt apaisé depuis la fin de la guerre froide et qui, de mois en mois, finissent par se tendre au point d'obliger les stratèges à envisager de nouveau l'éventualité d'une guerre majeure en Europe afin de l'éviter. Comment l'Alliance va-t-elle manœuvrer afin de préserver sa crédibilité sans pour autant provoquer une escalade militaire? L'OTAN, amenée par ailleurs à se repositionner à l'issue d'une guerre que l'on dit hors zone, la guerre d'Afghanistan, de ce côté-là, c'est l'heure du bilan. Tandis que sur le front irakien, l'État islamique oblige l'un des acteurs principaux de l'Alliance, les États-Unis, à se réengager dans un conflit dont ils étaient sortis à grand-peine. Pour commenter ces évolutions, nous recevons Camille Grand. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la sécurité en Europe, la politique nucléaire, la non-prolifération et le désarmement. Vous avez également rempli de nombreuses missions, notamment au ministère de la Défense. Vous avez aussi été directement impliqué, par exemple, dans les négociations sur les forces conventionnelles en Europe. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le courant de cette émission. Olivier Kempf, docteur en sciences politiques et auteur d'une toute nouvelle édition de l'OTAN au XXIe siècle, la transformation d'un héritage. Une organisation que vous connaissez de l'intérieur pour y avoir occupé différentes fonctions. Vous êtes également chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Bonjour.
Bienvenue également à Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan et de la sous-région. Alors je vais commencer justement par m'adresser à vous, Karim Pakzad, pour vous demander comment vous percevez cette page qui se tourne pour l'OTAN, la fin de son intervention en Afghanistan. A posteriori, cette implication de l'Alliance sur un terrain qui n'était pas une zone d'intervention traditionnelle a-t-elle fait plus de bien que de mal?
Oui, évidemment, on est arrivé à l'heure du bilan parce que d'ici fin de l'année, l'OTAN va quitter l'Afghanistan. Ou plutôt, lorsqu'on parle de côté des Afghans sur place, on parle rarement de l'OTAN en Afghanistan. On parle plutôt des forces américaines et ses alliés. C'est une évidence parce que l'OTAN est venue un peu plus tard en Afghanistan. Au début de l'intervention en Afghanistan, c'était une intervention décidée par les États-Unis et accompagnée par certains de ses alliés. Et l'OTAN a pris le commandement des forces de la coalition à Kaboul uniquement en janvier 2003. Et la raison pour laquelle l'OTAN a pris le commandement qui était assuré jusqu'à par l'ONU en Afghanistan, c'était parce que, contrairement à ce que les États-Unis pensaient, la guerre contre les talibans n'était pas aussi facile que prévu. Et donc, très vite, lorsqu'ils ont constaté qu'il y a une résistance dans les zones traditionnelles d'implantation des talibans, à ce moment-là, l'ONU ne pouvait pas vraiment assurer le commandement des forces alliées, donc on a fait appel à l'OTAN. Mais l'erreur qu'a fait l'OTAN depuis le début, c'est qu'il n'a pas décidé d'élargir son commandement, son implantation dans les grandes provinces, dans les grandes villes de province. Il a resté cantonné à Kaboul. Et c'est la raison pour laquelle les talibans ont pris l'initiative et ils ont étendu leur influence en Afghanistan. Et l'OTAN a été obligé finalement, à partir de mois d'août de 2005, d'étendre son zone d'influence dans les grandes provinces. Mais malheureusement, à ce moment-là, les talibans avaient pris vraiment racine dans une large zone allant de l'Est et de l'Ouest. Et dès ce moment-là, l'OTAN se bat vraiment dans une guerre infinie.
Simplement, la perception des populations, tout de même, c'est qu'ils auraient mieux fait de ne jamais venir ou que finalement, à tout prendre, ils ont quand même pu apporter un certain nombre d'améliorations et permettre tout de même aux civils de s'organiser.
D'abord, la perception de la population. On ne peut pas dire que les Afghans étaient contents contents ou mécontents de l'intervention d'Amérique ou de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan. Tout ça dépend de quel point de vue on se situe. Parce que la guerre en Afghanistan, en même temps, c'est une guerre civile. Donc, si vous allez dans les zones d'implantation des talibans, évidemment, ils sont mécontents du rôle, non seulement du rôle, mais de la présence même des forces étrangères en Afghanistan parce qu'ils les combattent. Et c'est la raison pour laquelle on a vu même à la fin quelqu'un comme Ahmad Karzai, le président de la République, mis en place par les Américains, a pris une position anti-américaine, anti-OTAN, parce qu'il voulait accompagner ce sentiment anti-étranger chez les talibans. Mais il y a une autre partie de la population qui se trouve dans le nord, dans l'ouest, dans le centre d'Afghanistan, ceux qui étaient déjà anti-talibans, qui ne souhaitent pas autour des talibans. Oh, évidemment, ils sont contents, ils sont même aujourd'hui inquiets du fait que l'OTAN quitte l'Afghanistan.
On comprend à l'écoute de Karim Paghzad, le bilan risque d'être difficile à établir. Qu'en pensez-vous, Olivier Kempf?
Je vais peut-être un peu nuancer ce pessimisme. On en était à 2005-2007. Effectivement, à partir de 2007-2008, l'OTAN était très surprise des hostilités et parce que peut-être pour la première fois de son histoire, elle faisait face à un ennemi qui lui a infligé des pertes sévères. Et ça a été une grande surprise, qui a d'ailleurs à l'époque donné l'impression que ça se cassait la figure. Somme toute, du strict point de vue militaire, l'OTAN a fait énormément d'efforts. D'une part avec des tactiques de protection de ses forces et de durcissement de ses capacités, d'une part. D'autre part, avec des tactiques de contre-insurrection qui ont finalement donné des effets, puisque d'un point de vue militaire, les talibans n'étaient plus capables de faire des grandes batailles rangées, mais ne faisaient que des petites actions de harcèlement et d'attentats aveugles. Ça, c'était pour la partie militaire. La deuxième grande orientation était celle de l'afghanisation, c'est-à-dire la formation des forces nationales de sécurité, aussi bien une armée afghane qui montait jusqu'à 350 000 hommes que d'une police afghane. Et ça a été la tactique, j'allais dire, des militaires. Puis à côté de ça, vous avez deux autres dimensions, qui sont la dimension politique, qui échappe à l'Alliance Atlantique, évidemment, et puis une action économique et sociale, et là je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que si les talibans ont probablement perdu la partie militaire du conflit, ils ont conservé l'influence politique et l'influence économique et sociale, notamment au travers de la gigantesque maladie qui frappe encore l'Afghanistan, qui est la corruption. Et là, l'OTAN ne pouvait rien faire contre ça, parce que là, c'est au-delà des outils militaires qui sont dans le sac à dos de l'OTAN.
Simplement, aujourd'hui, il est impossible de dire que les talibans sont totalement évincés du paysage. Il y a un certain nombre de difficultés qui se présentent. Vous voulez réagir?
Oui, je crois qu'il est en soit très optimiste si on considère que sur le plan militaire, l'OTAN a eu des succès en Afghanistan. L'OTAN, depuis le début de son engagement en Afghanistan, ne savait pas quoi faire en Afghanistan, ne savait pas quelle stratégie poursuivre. C'est la raison pour laquelle il a changé à trois reprises sa stratégie, même militaire. À partir de 2005, l'OTAN a commencé à bombarder aveuglément en recourant à la force aérienne davantage et des grandes opérations d'envergure.
Il y a eu le gros problème des victimes civiles,
absolument,
de ce qu'on appelle les dommages collatéraux.
Absolument, ce qui a vraiment poussé une partie de la population dans les bras des talibans. Et puis...
guerre asymétrique.
C'est une guerre asymétrique. Les talibans font recours à ce qu'ils peuvent faire dans une guerre asymétrique. Et notamment depuis 2003, lorsque ils ont, avec l'aide d'Al-Qaïda, ils ont apporté les attentats suicides qui n'existaient pas en Afghanistan jusqu'à là. C'est-à-dire que les Afghans ne connaissaient même pas les attentats suicides. À partir de ce moment là, on a vu que l'OTAN a montré sa faiblesse et l'OTAN a été obligé avec le général McChrystal de changer évidemment de stratégie pour mettre en place une stratégie anti-guérilla. Mais cette stratégie également, il a complètement échoué jusqu'au point
et
aujourd'hui, les talibans sont plus forts que jamais sur le plan militaire.
L'intervention était très compliquée d'avoir l'OTAN d'un côté, les Américains de l'autre côté. C'était difficile à articuler, Camille Grand.
Bah, l'engagement en Afghanistan, il faut dire ce qui est, c'était le dernier endroit au monde où l'OTAN envisageait de s'engager avant le 11 septembre 2001. Et personne ne souhaitait aller s'engager en Afghanistan. Tout le monde avait le souvenir de ce qui s'était passé pour les Soviétiques. Et c'était vraiment pas... Donc sans les attentats du 11 septembre, l'OTAN ne serait jamais allé en Afghanistan à aucun moment, pas plus que les Américains ou les différentes forces occidentales, même au-delà de l'OTAN, qui se sont engagées sur ce terrain. On est devant un cas classique de difficulté à réconcilier les objectifs militaires et les objectifs politiques d'une opération. Si on dit les choses de manière assez simple et basique, l'objectif premier qui était d'en faire cesser le fait que l'Afghanistan soit un sanctuaire pour un groupe terroriste qui était Al-Qaïda, a été, on peut dire, grosso modo réussi. Après, ce qui a enrobé cet objectif, c'est-à-dire l'idée qu'on allait transformer l'Afghanistan, chasser les talibans à tout jamais, etc., en réalité, traduisait une certaine méconnaissance de la société afghane et de ses complexités, des relations entre les différentes tribus et ainsi de suite, et a conduit effectivement à un certain nombre de louvoiements stratégiques dans la gestion de l'affaire afghane, qui fait qu'aujourd'hui, l'OTAN se retire des opérations de combat, restera probablement engagée aux côtés du gouvernement afghan avec une mission d'assistance, mais qui sera beaucoup plus réduite qu'elle ne l'a été depuis le début de la présence de l'OTAN en Afghanistan, qui était montée quand même pratiquement à 100 000 hommes, hein, je veux dire, 140 000 hommes, donc c'était une présence très très lourde. C'est la plus grosse opération qu'ait menée l'OTAN dans son histoire. Et donc on va revenir à quelque chose qui va impliquer entre peut-être une dizaine de milliers, 20 000 hommes au maximum sur ce terrain. Il est, à mon avis, trop tôt pour dire aujourd'hui que tout ça était un gigantesque échec ou un magnifique succès.
Un des paradoxes ou une des singularités de la chose, c'est que l'un des buts était tout de même la capture de Ben Laden, qu'on l'a retrouvé finalement de l'autre côté de la frontière, côté pakistanais, et que, justement, ce Pakistan, où l'OTAN n'a pas mené la guerre, est un pays qui continue de poser problème et d'alimenter l'insurrection en Afghanistan et de créer aussi quelques inquiétudes à l'égard dans ses rapports avec l'Inde.
Alors, Olivier Kempf. Pour essayer de faire la liaison entre votre question et ce qu'on vient de dire sur à la fois l'OTAN et l'Afghanistan, pour les Américains, et je précise bien les Américains, qui, dans le cas présent, ont eu une stratégie, j'allais dire, propre, peut-être un peu distincte de celle de l'OTAN, ils ont considéré un théâtre d'opération comme celui de l'AFPAC, ce qu'ils appelaient l'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, et ce qui faisait d'ailleurs qu'à l'époque, enfin jusqu'à très récemment d'ailleurs, vous aviez deux opérations simultanées. Une opération qui était alliée, celle de l'OTAN, et puis une opération centrée sur l'Afghanistan, et puis une opération qu'on appelait contre-terroriste avec d'autres alliés, enfin parfois les mêmes, mais d'autres alliés, et qui visait là à être réellement contre-terroriste. Et puis vous aviez une troisième action qui était celle des forces américaines proprement dites, qui elles ne savaient pas ce que la frontière, pour faire simple, envoyer des drones, aller taper sur les zones du Waziristan, enfin sur les zones tribales le long de la frontière, pour aller détruire les sanctuaires, les bases arrières de l'autre côté de la frontière. Donc on voit bien que il y a eu une action de la part des Américains à plusieurs niveaux, et donc l'implication du Pakistan. Et donc quand on fait le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qui appartient à l'OTAN? Qu'est-ce qui appartient aux Américains? Qu'est-ce qui est simplement centré sur l'Afghanistan? Et pourquoi faut-il encore penser, vous avez raison de poser la question, au Pakistan? Voilà des questions qui se posent aujourd'hui.
Et alors, vous le faisiez allusion, Camille Grande, tout à l'heure, cet engagement, finalement, a créé un précédent, parce que l'OTAN est intervenu au début contre les commanditaires des attaques contre les tours jumelles à New York. C'est de cette façon qu'ils sont rentrés dans le conflit. Donc, ensuite, les opérations donc ont évolué. L'OTAN s'est trouvé piégé sur un terrain très complexe et la guerre s'est étendue dans le temps. Le mandat des forces déployées n'a cessé d'évoluer. Est-ce que ce précédent est amené à se reproduire ou est-ce qu'on a tiré les leçons et ce type d'utilisation d'un prétexte pour une intervention aussi lourde?
Je crois que ce que dit l'Afghanistan, c'est qu'en réalité, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait pour les opérations de l'OTAN. Ceux qui disent aujourd'hui que l'OTAN ne sera plus engagé au-delà de sa périphérie immédiate ou ne fera plus de grandes opérations terrestres, en réalité méconnaissent une réalité géopolitique majeure qui est qu'on ne sait pas quelles seront exactement les menaces de demain. Il y a un an, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait la guerre en Europe entre Russes et Ukrainiens. Il y a deux mois avant la chute, l'engagement de l'OTAN contre Kadhafi, personne n'aurait parié que l'OTAN allait mener une campagne aérienne pour chasser Kadhafi du pouvoir. Donc, la réalité, c'est que au fond, les événements prennent le pas sur les choses et que tout l'enjeu finalement de ce sommet, de cette période post-afghane pour l'OTAN, c'est est-ce que l'OTAN est en mesure d'être prête à cette multiplicité de risques ou pas, d'une part, et d'autre part, jusqu'où est-ce que l'OTAN va s'engager dans des opérations demain? On voit qu'il y a une forme de fatigue stratégique après l'Irak, après l'Afghanistan, chez beaucoup d'alliés, donc on est plutôt dans une phase de repli relatif, en particulier des États-Unis, mais c'est des choses qui peuvent changer au fil des événements.
Karim Pakzad.
Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Évidemment, la mission que se donne l'OTAN changera en fonction de l'évolution de la situation dans telle ou telle partie du monde. Mais si on revient en Afghanistan, là, la situation est claire. Et la position exprimée, adoptée par l'OTAN au dernier sommet de Chicago, est nette et claire. C'est un désengagement. Quoi qu'il arrive,
en Afghanistan,
absolument. Le maximum que l'OTAN et les États, par le biais des États-Unis, pas l'OTAN directement, pour obtenir en Afghanistan, c'est que le prochain président afghan signe le traité, bilatéral de sécurité bilatérale qui permettrait aux Américains de maintenir jusqu'à 10 000 soldats, mais même par rapport à ce contingent, Obama a d'ores et déjà annoncé qu'il retirerait 5 000 à la fin de 2015 et puis 5 000 autres à la fin de 2016. Donc l'objectif est fixé.
C'est des engagements.
Oui. Mais la question est de savoir, est-ce que l'OTAN a réussi à obtenir ce qu'il avait fixé en Afghanistan? C'est là que moi je reviens de fait que la situation en Afghanistan n'a pas du tout changé depuis que l'OTAN a pris le commandement des forces étrangères en Afghanistan. Au contraire, vous avez tout à l'heure fait allusion de fait que même la nature de l'intervention américaine au début, c'était la guerre contre le terrorisme. Évidemment, Al-Qaïda a été affaibli, son chef Ben Laden a été capturé, mais les organisations, les réseaux liés à Al-Qaïda sont toujours actifs et sont beaucoup plus puissants qu'au début dans les zones frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'État islamique en Irak, son chef Abu Bakr al-Baghdadi, il a fait son état d'armes dans les zones frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et beaucoup d'autres chefs des groupes Al-Qaïda partout au Yémen, au Mali, au Nigeria, au Libye, ont été formés dans cette région. Et toujours, il y a toujours aujourd'hui, il y a une guerre. Oui, tout à l'heure, on a fait mention à AFPAC. Évidemment, aujourd'hui, l'armée pakistanaise est en guerre contre ce qu'on appelle les talibans pakistanais, qui sont beaucoup plus influencés par Al-Qaïda en termes idéologiques et en termes de méthode de lutte. Donc, la menace terroriste, de type Al-Qaïda, de type djihadiste, n'a pas du tout disparu dans cette région-là.
Il y a des voix au sein de l'OTAN pour réaliser, enfin, qui s'élèvent et qui expliquent que le travail n'est pas achevé dans cette zone-là et qu'il peut toujours y avoir des sanctuaires pour les djihadistes.
Personne n'en doute. Cela étant, dire que c'est un total échec, j'aimerais quand même rappeler que le 12 septembre 2001, il y avait des talibans et Al-Qaïda qui étaient au pouvoir à Kaboul. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ça, c'est la première chose. Alors après, qu'il en reste, bien évidemment. Nous faisons face, et là je vais peut-être élargir un peu cette notion de bilan. Dans la pré-guerre froide, nous observons des conflits de plus en plus complexes. Et avec l'Afghanistan, ça a posé la question, mais qu'on voyait déjà venir avec la question irakienne, de ce que vous appelez les guerres asymétriques, je n'aime pas l'expression, mais des guerres irrégulières qui sont plus les guerres conventionnelles. Mais regardez l'ensemble des conflits et des opérations dans lesquelles l'OTAN est intervenue depuis 90. 95, elle rentre en Bosnie. Elle en sort en 2004-2005, 10 ans après. Elle arrive au Kosovo en 99, elle y est toujours. Elle entre en Afghanistan en 2003, elle en sort en 2014. Aujourd'hui, de toute façon, on arrive pour des missions longues, et à la fin, on aura toujours des gens qui verront le verre plutôt à moitié vide par rapport au verre à moitié plein.
On ne tranchera pas cette question pour le moment, mais on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On fait donc une courte pause pour les informations, et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos invités à propos de l'OTAN, à quelques jours du sommet de l'OTAN, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.